À propos de l'orphelinat, justement, je repensais en écoutant Bruno à ce camp qu'on a fait avec le fondateur de cet orphelinat. Et son enseignement avait plu à tout le monde. En plus, c'était l'été, où il avait parlé de la douche qui rafraîchit. Et ça rejoint ce que disait Charles tout à l'heure. Lire sa Bible, prier le matin, se confier dans la grâce de Dieu. C'est ça, cette douche qui rafraîchit. Je résume une semaine de messages, mais je me souviens que ça avait beaucoup frappé à l'époque, ce besoin justement d'être rafraîchi régulièrement. C'est comme la manne, si on la garde, elle pourrit. Il faut en reprendre tous les jours. C'est une très bonne image de la vie chrétienne. Ceci étant, moi aussi, parfois, je me pose des questions et je me disais, pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour un chrétien en Occident, en France, puisqu'on est en France, d'être plein de reconnaissance envers Dieu, de vivre sa foi avec beaucoup de joie, beaucoup de conviction. Par moment, on a l'impression que c'est une lutte, et ça ne devrait pas l'être. Et en réfléchissant à ça, je me suis rappelée de ce que j'ai connu étant petite, donc il y a très longtemps évidemment. Et je trouvais que les chrétiens avaient un enthousiasme qui, moi, enfant, m'amusait beaucoup. C'était marrant parfois, franchement, des gens âgés remplis d'enthousiasme. C'est tout juste s'ils ne sautaient pas en l'air et je me disais mince. Et en réfléchissant, je m'aperçois qu'ils avaient de quoi. Parce que, imaginez-vous à leur place. Vous êtes un adolescent et votre père rentre tous les soirs ivre et tape tout le monde. Et puis un jour, les parents sont invités dans une réunion chrétienne et le papa change complètement. Il boit plus, il tape plus, il prie, il lit sa Bible, il prend soin de sa famille. Et au lieu de dépenser son argent n'importe où, il a des projets financiers, des projets pour sa famille. Et ça, moi, je l'ai entendu comme témoignage. Bon, j'habitais à Armand, une ville assez industrielle à l'époque. Donc, ce genre de témoignage, j'en ai entendu des dizaines. Imaginez l'adolescent qui a vécu ça, qui a reçu des coups entre, depuis sa naissance, on va dire, jusqu'à 10-11 ans, et qui, brutalement, 12-13 ans, tout change à la maison. Papa est gentil. Il tape plus les enfants, il donne plus de coups de pied aux chiens, il ne jure plus. Je transcris des témoignages que j'ai entendus. C'est Donald G. qui disait, un des rares théologiens des Assemblées de Dieu, qui disait quand les gens viennent au Seigneur, même le chien s'en rend compte. Eh oui, c'était ça. Et vous imaginez quand vous avez vécu ça à 11, 12, 13, 14 ans, la reconnaissance que vous avez envers Dieu. Quand vous avez encore des bleus ou des cicatrices qui restent de votre passé et que du jour au lendemain, papa devient quelqu'un d'aimant. Miracle. Miracle absolu. Vous imaginez l'enthousiasme et l'engagement de ces jeunes. Parfois, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'engagement dans les nouvelles générations? Mais c'était tellement évident. Ce Dieu qui avait changé la vie de famille, ce Dieu qui avait changé le cœur du papa et de la maman, et voilà. Mais on avait envie de l'adorer, on avait envie de le remercier, parce que c'était quand même plus agréable de s'endormir sans crainte de se faire encore taper au milieu de la nuit ou des choses comme ça. J'ai entendu des témoignages épouvantables. Donc vous imaginez l'enthousiasme, la joie, la reconnaissance, une vie transformée. Alors ça m'a fait penser à ce verset, je crois que c'est Luc 7, 47, je regardais tout à l'heure, qui est tellement vrai, mais bon, il y a quand même des solutions, hein. On ne peut pas tous sortir de famille comme ça, mais il y a des solutions. 7,47 dit ceci. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. C'est la femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et évidemment, quand on est deuxième, troisième, quatrième génération de chrétiens, bah, il n'y a pas d'énormes changements. Évidemment. Alors, si je prends l'exemple de mes enfants qui sont donc là, un, deux, troisième génération, bon, on s'est peut-être un peu amélioré avec le temps, mais certainement pas assez à leur goût. Mais je veux dire, il n'y a pas eu ce changement radical. Alors peut-être qu'on en aurait besoin encore, ça peut encore venir, hein. Je dis toujours, il ne faut pas désespérer, hein. On peut toujours s'améliorer, mais je veux dire, donc ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Donc il faut qu'on travaille un petit peu sur nous-mêmes, parce que ce n'est pas parce que Dieu nous a moins pardonné de choses qu'on doit moins aimer et moins être reconnaissant, même si c'est un fait que Jésus constate. Donc voilà, je laisse ça à votre réflexion. Je pense qu'il y a des solutions. Mais une des solutions, c'est justement cette douche rafraîchissante, se rapprocher de Dieu, savoir qui il est, prier, lire sa Bible. Parce que c'est la seule solution pour vraiment retrouver cette fraîcheur et cet enthousiasme. Et évidemment, je comprends que les ados de mon époque, beaucoup avaient vécu des expériences similaires, sans parler des guérisons assez extraordinaires. Hein, quand on était prêt à enterrer maman et que, bam, elle guérissait miraculeusement. Il y avait de la joie dans la famille. Hein. Il y avait une joie qui durait et qui dure encore. Enfin, si je prends la grand-mère de Jean-Baptiste, oui, c'est ça. Elle a vécu des choses comme ça. Elle a vécu des choses extraordinaires. Et elle a gardé ce peps. Elle est plus âgée que moi. Elle saute partout, elle court partout. Elle a pourtant vécu des choses difficiles. Elle a perdu un bras à la guerre. Donc on ne peut pas dire que ça a été pavé de pétales de rose, sa vie. Donc parlez-en avec Jean-Baptiste quand il vient ici. Sa grand-mère, c'est un cas. Hein. Rempli de joie et de dynamisme. Oui, Jean-Baptiste, le mari de Judith. Voilà, c'est un cas. Un cas rempli de joie et de dynamisme. La dernière fois que je l'ai revue, c'était il y a un an. Vulgairement, on dirait, elle pète le feu. Et je la trouve beaucoup plus sympathique. Tiens, oui, justement, les gens progressent. Je l'ai eue comme monitrice d'école du dimanche et... Bon, mais je la trouve géniale maintenant, vraiment. Elle est beaucoup plus affable, beaucoup plus gentille. Donc, même les chrétiens font des progrès quand ils le veulent. Il ne faut pas désespérer. Ah oui, Monique. Voilà, elle est fantastique, absolument fantastique. Je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai, ça m'a parlé quand Charles parlait de fraîcheur. Et si on veut retrouver cette fraîcheur, on a notre part à faire. Ça ne va pas nous tomber dessus. Comme ça, il va falloir chercher le Seigneur. Et vous savez, il y a ce verset qui dit « Cherchez le Seigneur ». Et parce qu'il ne veut pas que les choses soient distributeurs de boissons, hein. Comme ça, on appuie sur un bouton, non, il faut le chercher. Il demande de notre part une recherche. Donc voilà, réfléchissez à tout ce que Dieu peut encore changer dans votre vie, et je pense particulièrement aux ados et aux jeunes. Dieu peut changer vos parents. Je vais avoir des ennuis à la sortie, mais... Mais oui, ils peuvent encore progresser. Priez pour eux et vous verrez des changements. Au lieu de grogner quand ils font des choses qui ne vous plaisent pas, priez, priez pour eux. Et puisqu'on parle de la prière, pour ceux qui n'ont pas connu Mamie Miton, comme on l'appelait, dans les moments difficiles de l'Église, il y a une fois où elle était allée dans la petite pièce là et pendant tout le culte, elle avait intercédé pour l'Église. Donc on a des souvenirs de quelqu'un qui savait prier. Et on en avait bien besoin, et on en a toujours autant besoin. Donc que Dieu relève des gens de prière comme ça. On en a besoin. Voilà, je crois que je vous ai dit toutes les petites apartés que je voulais vous dire. Et on va reprendre 1 Samuel. Alors on va reprendre parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc c'est 1 Samuel chapitre 29. On va le reprendre parce que j'avais fait que 2 ou 3 paragraphes et je pense que ce ne sera pas perdu. Ceux qui l'ont entendu la semaine dernière, ils vont prendre patience. Vous savez que la patience est un fruit de l'esprit. Il y a 15 jours, pardon. Oui, oui, la semaine dernière, là c'est honteux, mais Xavier m'a volé le message de l'année prochaine. Je lui ai dit, il ne s'est pas repenti, mais on reviendra là-dessus. C'était un message absolument excellent qui m'a vraiment fait plaisir aussi. Parce qu'on était dedans en fait, hein. On était dedans, dans l'histoire de Saül et David. Donc, pour la semaine prochaine, cette année, il n'y en a pas beaucoup qui ont travaillé. Donc, pour les 2 derniers messages, j'aimerais bien que vous prépariez d'avance. Alors, le chapitre 30, passionnant, pas très difficile. Si vous pouvez le travailler chez vous, au moins faites des grandes lignes. Vous n'avez pas besoin d'écrire des pages, mais faites une sorte de plan. Des idées qui vous viennent sur le chapitre 30 et le chapitre 31, qui est la mort de Saül. Donc, on va arriver à la fin de la vie de Saül. Triste, triste, triste. Et celui-là est beaucoup moins drôle, le 31, mais essayez de faire les deux derniers chapitres, parce que je crois que là, vous n'avez pas été très, très scolaire. Donc, essayez de travailler les deux derniers chapitres. Ça sera beaucoup plus amusant aussi pour vous et pour moi aussi, parce que parfois, vous apportez dans vos textes des idées fantastiques. Parce que c'est toujours bien de voir un texte biblique par différents yeux, hein, différentes personnes. Ça donne des éclairages. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que différentes personnes vont lire des choses complètement différentes et qui toutes marchent ensemble. Ça, c'est la pensée hébraïque. Elle se prête à différentes choses. Hein, ce n'est pas comme la pensée européenne et particulièrement cartésienne des Français. C'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou c'est mauvais. André parlerait de dualisme ou de... Oui, dialectique, voilà. C'est ça. Et la pensée hébraïque est beaucoup plus complexe et elle est beaucoup plus adaptée à la réalité, en fait. Parce que la réalité, ce n'est pas toujours blanc ou toujours noir, toujours vrai ou toujours faux. C'est pas toujours si simple. Donc, c'est chouette pour moi aussi d'avoir différents éclairages et en général, je les retranscris dans le message sans citer votre nom, à moins que vous le demandiez expressément. Voilà. Donc, préparez le chapitre 30 et 31. Donc, on fera le 30 la semaine prochaine et le 31 la semaine d'après. Et on clôturera, hélas, sur la mort de Saül. On essaiera quand même de donner une note positive pour terminer parce que terminer sur la mort de Saül, ça va être un petit peu chaud. On reprend le texte du chapitre 29. Très spécial ce chapitre. Comme j'avais dit la fois d'avant, je ne savais pas trop quoi dire dessus. J'avais pensé même carrément le passer au-dessus. Et finalement, ben non, il y a des choses à dire. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël dressa son camp près de la source qui est à Jisréel. Les choses sont précises, la Bible n'est pas un conte de fées. Hein, les lieux de bataille sont clairs. La plupart des lieux cités dans la Bible, on les retrouve. Donc, on n'est pas dans le conte de fées. Les princes de la confédération des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, expression qui veut dire une énorme armée. Et David, alors ça c'est curieux, David et ses hommes avançaient à l'arrière-garde. Pourquoi l'arrière-garde des si bons soldats? Avec Achish, avec ce prince philistin, avec ce roi philistin. Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'arrière-garde? On peut se poser des questions. Les chefs des Philistins dirent, « Qu'est-ce que ces Hébreux ?» Et Achish répondit au chef des Philistins, « C'est David qui était au service de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis des jours et des années. » En fait, ça faisait un an et demi. Enfin, il était en sa deuxième année. « Et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Ami. Mais les chefs des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne au lieu que tu lui as fixé. » On va le remettre à sa place, celui-là. Qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. Comment cet homme regagnerait-il la faveur de son Seigneur, si ce n'est au prix des têtes de nos hommes? Je ne sais pas s'il y a un peu d'humour dans ce texte, mais rappelez-vous que Saül avait demandé des prépuces pendant un temps. Donc, ils se disent, voilà, maintenant, ça va être la tête, voilà. N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant? Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Achish appela David et lui dit, par la vie du Seigneur, tu es un homme droit et cela me plaît de te voir partir en campagne et revenir au camp avec moi, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès de moi jusqu'à ce jour, mais tu ne plais pas au prince de la Confédération. À présent, retourne et va en paix pour ne rien faire qui déplaise au prince de la Confédération des Philistins. Il y a un message là. Vous voyez, quand il y a une répétition comme ça dans un texte biblique, dites-vous toujours, il y a un message. David dit à Achish, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu trouvé en moi, ton serviteur, depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi? Qu'est-ce qu'il veut dire là, David, hein? Vous allez voir, il emploie beaucoup de choses à double sens. Qui est son seigneur le roi? Bon, Achish répondit à David, je le sais car tu me plais autant qu'un messager de Dieu, c'est-à-dire qu'un ange. Achish ressentait quelque chose chez David, visiblement. Mais les chefs des Philistins, voyez encore une fois, ont dit, il ne montera pas avec nous au combat. À présent, lève-toi de bon matin, toi et tes hommes et les hommes de ton maître qui sont venus avec toi. Ça voudrait dire qu'il y en a qui ont quitté Saül pour le rejoindre. Ça, on n'avait pas remarqué ça. Levez-vous de bon matin encore et partez dès qu'il fera jour. Il y a une insistance là qui comporte un message aussi. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin. C'est lourd, hein ? Il y a un message là. Et retourner au pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montèrent à Jizréel et ils se préparent à la guerre. Guerre où ils vont tuer Saül. Je sais que Florence n'aime pas que je raconte la fin du film, donc je vais avoir des ennuis. Alors, ce texte-là, j'avais dit la dernière fois, est en parallèle avec Saül, avec ce qui s'est passé avec Saül. Hein, pendant que Saül, lui, est allé consulter cette nécromancienne, David, lui, montait à la guerre avec les Philistins. On a vu dans le passé que Dieu parle à Saül, donc c'était il y a 3 ou 4 semaines, on a vu que Dieu parle à Saül une dernière fois en se servant de messager inattendu, puisque c'est une nécromancienne. Mais bon, il a bien parlé au travers de l'âne de Balaam et toutes sortes d'autres manières. Malheureusement, on a constaté la dernière fois que Saül ne se repent pas. Toutes les perches que Dieu lui a tendues, en rappelant que c'est lui qui avait supprimé les diseuses de bonne aventure, etc. Tout ça, ça ne le touche pas, il ne bouge pas. Dommage. Alors maintenant, on va voir que pour David, Dieu va aussi utiliser des messagers inattendus. C'est ça qui est bien avec Dieu. Charles parlait de fraîcheur. Dieu a toujours des choses nouvelles, toujours des façons nouvelles de s'y prendre, des choses complètement inattendues, il nous surprend. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Si elle est vécue à fond, si elle est vécue à 100%, elle est fatigante parfois, géniale en tout cas. Il faut être honnête. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses nouvelles. Et là, Dieu va se servir de messagers complètement inattendus. Ce sont des gens du camp ennemi. Comment des gens du camp ennemi peuvent me donner des conseils qui viennent de Dieu? On va voir comment. Parce que Dieu va se servir d'eux pour ramener David à sa véritable identité. Alors, on va retrouver un peu la même scène qu'avec Saül, les deux armées qui se confrontent. Alors, ceux qui aiment bien les jeux vidéo, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Hélas, scène de guerre, deux peuples qui s'affrontent. Toutes les troupes, donc il semblerait que ce soit assez important, les Philistins étaient très nombreux, et Israël dresse son camp, on sait que Saül est mort de peur, donc c'est vraiment un problème. Et puis, du côté des Philistins, il y a une grosse insistance dans le texte sur les princes de la confédération des Philistins. Ça fait très sérieux, ça fait très noble, ça impressionne, les princes de la confédération. Pourquoi on ne dit pas simplement les Philistins? On sent qu'il y a un poids là-dessus. Alors, ils avancent avec leurs centaines et leurs milliers. Donc, l'auteur veut vraiment nous montrer que c'est une armée énorme, très impressionnante. Et combien de fois on est impressionné par les problèmes, par nos ennemis, que ce soit nos pensées, nos problèmes, parfois des gens. Comme ils sont impressionnants, les problèmes. Et plus on les regarde, plus ils sont impressionnants. C'est Rick Ridings qui prenait une pièce à l'époque, notre pièce de 5 francs. C'est quand même pas mal grande. Et puis, il disait, oh là là, il est grand mon problème. Et il le rapprochait. Puis, il est énorme, je ne vois plus rien d'autre. Si on le mettait tout près des yeux, on ne voit plus rien d'autre. Et bien, plus on fixait les yeux sur cette armée énorme, je pense que ça devait être pareil. Alors, pourquoi David est à l'arrière-garde avec son copain, avec le roi Achish? Alors, on peut se poser la question. Est-ce que Achish n'était pas suffisamment respecté comme homme de guerre? La Bible ne dit pas. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était un choix rusé de la part de David? Je reste à l'arrière-garde en espérant que je n'aurai pas besoin de me battre contre mes frères. C'est quand même. Il a reçu l'onction royale pour être roi d'Israël et il va aller trucider des Israélites. Enfin, quelque chose qui ne va pas là. Ou est-ce que c'est encore pire? Il espère prendre les Philistins en tenaille. La 7e compagnie, ça. C'est-à-dire, lui à l'arrière-garde avec ses hommes et les Israélites de l'autre côté. Est-ce qu'il espérait ça? On ne sait pas. On peut se poser la question, parce que comment est-ce qu'il osait accompagner les Philistins dans une guerre contre Israël? Ça ne colle pas avec les psaumes, ça ne colle pas avec sa vie, ça ne colle pas avec son intégrité. Bon, bien que ces derniers temps, il était tombé bien bas, mais quand même. Donc, on n'a pas de réponse, mais on peut se poser toutes ces questions. Et ce qu'on constate, c'est que les chefs des Philistins, eux, ils ne sont pas naïfs. Et parfois, les ennemis de la foi ne sont pas naïfs et ils disent des choses sensées. Et la première chose qu'ils vont dire, c'est « Mais qu'est-ce que ces Hébreux font ici? Qu'est-ce qu'ils font là ? » Achish, lui, il est visiblement soumis au prince et il leur laisse toute l'autorité. Hein. C'est là, on va en parler tout à l'heure. Mais les princes sont parfaitement logiques. On est en guerre contre les Hébreux. Il est hors de question que nos ennemis soient au sein de notre armée. Alors, ça peut parler pour d'autres situations de nos vies. Hein. De plus, si on relit... parce que moi, ça m'a rappelé un truc, c'est un ring a bell, comme on dit en anglais. Je dis, tiens, mais ça me rappelle quelque chose. Effectivement, 1 Samuel 14, verset 21, on s'aperçoit que les Philistins, ils avaient déjà eu une mauvaise expérience avec les Hébreux, avec les Israélites. Ben oui. Vous vous souvenez que quand il y avait eu la guerre, donc 1 Samuel 14, 21, ils ne s'attendaient pas à ce que les Israélites aient le dessus, mais Samuel avait prié et... Ils commençaient à avoir la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des Hébreux qui s'étaient engagés comme mercenaires. Ah, les mercenaires qui combattent pour de l'argent. C'est un métier. On peut combattre d'un côté ou de l'autre. C'est pas grave pourvu qu'on gagne sa solde, son salaire. Et ils avaient changé de camp. Quand ils avaient vu que les leurs gagnaient, ah, ben finalement, c'est les Hébreux qui gagnent. Et hop, on change de camp et on poursuit les Philistins. Donc, je ne sais pas s'ils avaient encore des cicatrices, mais ils se souvenaient de cette période. Peut-être ils l'avaient vécu eux-mêmes, peut-être des gens qu'ils connaissaient l'avaient vécu, on ne sait pas. Probablement certains d'entre eux l'avaient déjà vécu. Donc non, non, pas de confiance, pas question d'avoir des mercenaires hébreux dans notre armée. Sagesse. Si les chrétiens avaient toujours cette sagesse, ça aiderait parfois. Achish va préciser l'identité du groupe devant la colère des princes philistins. Mais c'est David, il s'enfonce en plus, parce qu'il dit « il était au service du roi d'en face ». Je ne sais pas si c'est une bonne défense de sa part. Hein. Mais bon, c'est un homme qui est au service, je pense que c'est ça qui l'intéresse. Ce ne sont pas des simples mercenaires hébreux comme la dernière fois, un petit peu, hein. Ils ne vendent pas leur service au plus offrant. Ce sont des amis à moi. Ce sont des amis à moi. Je leur fais confiance. Alors, on peut faire le rapprochement avec Saül au chapitre précédent. Parce que dans les deux cas, Dieu va se servir des ennemis. Spirituel, pour le cas de la nécromancienne, qui travaillait évidemment avec Satan et pas avec Dieu. Et puis, politique et militaire, dans le cas de David. Mais ce sont des ennemis. Et il va rappeler à l'un comme à l'autre... Saül, tu es le roi d'Israël, tu avais interdit la divination, tu avais pris des bonnes décisions. Et à David, David, tu es le serviteur du roi d'Israël, tu n'es pas le serviteur des Philistins. C'était clair dans la tête de Achish, mais ce n'est pas un Philistin. Il est avec les Philistins depuis un an et demi, mais il n'est toujours pas un Philistin. Vous savez, on raconte cette histoire, je l'ai déjà racontée, de... Je ne sais plus quel animal, le bouc, je crois, qui voulait devenir un lion et qui marchait comme un lion, qui mangeait comme un lion, qui rugissait comme un lion, du moins il essayait, et qui pensait être un lion en mettant en plus une pancarte « Je suis un lion ». Mais dès qu'il a rencontré un lion, au lieu d'en faire ses copains, il a fait leur dîner. Et c'est un peu ça, hein. Il n'est pas philistin. Et Dieu lui dit clairement, au travers de cette aventure, il n'est pas un des leurs. Les princes, eux, ils en sont conscients, ils vont plus loin, ils exigent le renvoi immédiat. Et vous avez vu Achish comment il leur est soumis. Eh, ils avaient de l'autorité, hein, ces gens. Parce qu'ils risquent de devenir un adversaire une fois le combat engagé. Et ils ont pensé à quelque chose aussi, ils peuvent vouloir regagner la faveur de Saül. Alors, est-ce qu'ils savaient, en quoi Achish devait le savoir, que David avait déjà essayé de regagner la faveur de Saül, non pas en tuant des Philistins, mais en lui montrant qu'il ne voulait pas le tuer. Il avait déjà fait deux essais non concluants. Et est-ce qu'ils en étaient conscients? On ne sait pas, mais c'est clair que David aurait aimé regagner la confiance de Saül. Ils y ont pensé. Et puis après, il y a l'allusion directe à David et Goliath, qui va parler au cœur de David. C'est au prix des têtes de nos hommes. Il se souvient quand il avait la tête de Goliath. Hein. Tout ça, ça parle au cœur de David. Et puis encore pire, ils vont même rappeler la chanson que les femmes avaient chantée et qui avait déclenché la jalousie de Saül. Hein. Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Ah. Tout ça, ça doit pas parler. Alors, c'est Florence qui m'a dit l'autre jour, mais d'après le texte, ça a été dit à Achish, mais pas à David. Mais Le problème, c'est que c'est reporté dans la Bible, donc David devait forcément être au courant. Sinon, ça n'aurait pas été là. Et probablement qu'Achish, le bon ami de David, lui a répété ce qu'avaient dit les princes. Ça ressort à peu près du texte, même si ce n'est pas dit. On peut tout à fait imaginer qu'Achish va rapporter tout ça à David, et j'imagine que le message va droit au cœur de David. Tu es David. Tu es le vainqueur de Goliath. Tu es le héros de ton peuple. Tu n'appartiens pas aux Philistins. C'était ça le message. Oh, peut-être depuis un an et demi, tu as tout fait pour faire plaisir à ton ami philistin. Tu t'es coupé en quatre pour lui, tu as fait des razzias, tu lui as ramené du butin. C'est pour ça qu'il l'aimait bien aussi. Hein. Il y avait, je pense, un peu d'intérêt aussi. En même temps, il s'attaquait à des maraudeurs qui faisaient du mal aussi au pays d'Israël. Donc, il avait trouvé la bonne solution pour faire plaisir à tout le monde. Ouais, parfois, on est un peu comme ça, ça, c'est la diplomatie. Mais tu n'es pas un philistin. Le message est clair. Ce n'est pas là que tu es appelé, et les Philistins, ils le sentent bien. David n'était pas appelé à être comme Achish, ni avec Achish, c'est-à-dire un vassal. Vous savez ce que c'est qu'un vassal? Vous avez fait l'histoire du Moyen-Âge, hein, les suzerains et les vassaux. Il n'est pas appelé à être un vassal des Philistins. Et ça, c'est important. Vous avez vu comment ils étaient autoritaires, ces princes philistins? Et c'est pour ça que le texte insiste sur les princes de la confédération des Philistins. Et Achish est complètement soumis. Il est hors de question que David devienne un vassal des princes philistins. Ce n'est pas parce qu'il s'est réfugié chez eux, à cause de la menace de mort qui pesait sur lui de la part de Saül et sa cour. Ça ne changeait rien à son identité, à son appel. Ça ne changeait rien. Et c'est un message pour nous. On peut avoir fait des erreurs. On peut avoir joué de diplomatie avec des ennemis du peuple de Dieu. Et je ne parle pas forcément des gens, mais plutôt des concepts, bien que parfois ça peut aussi être des gens. On peut avoir fait des compromis énormes, mais ce n'est pas pour ça qu'on en fait partie. Et souvent, l'ennemi va essayer dans vos pensées de vous faire croire « Oui, bon, maintenant, avec ce que tu as fait, c'est fini, quoi. Tu es un des leurs. » J'ai parlé à un maire de la région il y a quelques années dont les parents sont chrétiens très engagés. Je ne sais pas s'ils sont toujours en vie maintenant d'ailleurs, ils étaient assez âgés. Et il a vu des menaces de mort, il avait vraiment eu des problèmes. Et j'étais allée vers lui en lui disant, mais vous savez très bien que vous pouvez encore prier pour que Dieu vous protège. Ne restez pas comme ça. Il était réellement en danger. Et tu le connais. Il m'a dit, oh, je suis allée trop loin pour revenir vers Dieu. C'est ce qu'il croyait. Évidemment, je lui ai dit que non. Mais... Et vous savez, souvent, on pense, David aurait pu penser, je suis allée trop loin. Ça fait un an et demi que je fais cause commune avec eux, que je leur ramène le butin, que je leur fais croire tout un tas de trucs. C'est trop tard. Mon appel est fichu. C'est fini. C'est jamais vrai. Ne vous laissez jamais persuader par l'ennemi que... C'est trop tard. Ce que Dieu a demandé de vous, ce que Dieu espérait de vous, ce à quoi Dieu vous destinait est perdu. Vous ne laissez jamais tromper. Ce n'est jamais perdu. Ça peut être retardé à cause de nos bêtises, mais ce n'est pas perdu. Dieu ne revient pas sur son appel. Et d'ailleurs, vous l'avez vu avec Saül, à chaque fois, il lui a tendu des perches. Et jusqu'à sa mort, il va lui tendre des perches. Jamais. Il aurait encore pu changer devant la nécromancienne. Je suis sûre qu'il pouvait encore changer. Donc je pense que la mémoire de David doit être rafraîchie avec tout ça. D'ailleurs, on va voir qu'il va changer, nettement changer. Donc on peut s'être fourré dans des compromis dangereux avec le monde, avec l'ennemi, mais ça ne change pas notre vraie identité, celle que Dieu nous a donnée et son appel. Et quand je parle d'identité, c'est celle que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas celle que moi je veux me forger, c'est celle que Dieu nous a donnée et qu'on retrouve. Dieu va peut-être se servir de nos expériences malheureuses pour nous rapprocher de lui. La bonté de Dieu, c'est elle qui nous pousse à la repentance, au retour vers notre vraie destinée, la vie pour laquelle Dieu nous a fait. Vous savez, quand les humains fabriquent des machines, on ne peut pas faire autre chose avec. Hein. Je sais que je me répète beaucoup, mais je le répéterai encore. Si vous mettez la vaisselle dans le lave-linge et inversement, vous aurez des problèmes parce que ce n'est pas fait pour. De la même façon, l'homme a été créé. Chaque personne a été créée avec un but, une destinée souple, bien sûr. Dieu n'est pas légaliste, voilà. Vous ne pouvez pas faire un petit pas sur le côté. Souple, mais Dieu nous a quand même donné globalement une destinée. Alors finalement, le message, c'est ça. Tu n'es pas appelé à être un Philistin. Dieu va parler au travers des princes philistins sur la destinée et l'appel de David. Et ça va être important. Vous savez pourquoi ? Là, j'anticipe un tout petit peu. Florence n'aime pas, mais je vais le faire quand même. Et quand il va retourner chez lui, la ville est brûlée, il n'a plus de famille. Alors, il aurait pu prendre ça comme un rejet. Oh Seigneur ! Achish, mon copain, il m'a... Enfin, d'abord, Saül m'a rejeté. Toute la cour. Maintenant, mon copain Achish, il me renvoie. Les princes des Philistins sont des grands méchants, ils ne veulent pas de moi. Et puis voilà maintenant, eh ben, ma famille a disparu, ma ville est brûlée. Rejet. Eh bien, ça aurait été vraiment la mauvaise réaction. S'il était rentré dans cette spirale de rejet, tout le monde m'abandonne, personne ne m'aime, ce qui aurait été humainement, rudement normal. Moi, je ne sais pas, à sa place, quand même, mal avalé, hein. Il va falloir même qu'il se trouve à un autre lieu. Et en fait, là, il va être au plus bas de sa vie, David. Pour l'instant, ça sera, il y en aura une deuxième. Il va être au plus bas, mais c'est juste à ce moment-là qu'il va prendre toutes les bonnes décisions pour rentrer dans sa royauté. Il n'est pas un Philistin. Il a été rejeté par les Philistins. Et il va pouvoir retourner à temps pour récupérer sa famille. Et maintenant, vous comprenez, on en reparlera la semaine prochaine, pourquoi il y a une insistance pareille dans le texte. « Pars de bon matin, dépêche-toi, n'attends pas !» Ben oui, parce que s'il voulait récupérer sa famille, il fallait qu'il se dépêche. Voilà. La Bible dit, Dieu parle, c'est dans Job, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ça que j'aime bien avec Dieu. C'est pas le moule à gaufre, tout pareil. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est important. Et je m'étais arrêtée un petit peu là-dessus, donc on va passer un peu plus vite cette semaine. Attention de ne pas rejeter systématiquement ce que l'on entend. Même de la part de gens qui ne sont absolument pas chrétiens, collègues, patrons, même des gens malveillants. Vous allez me dire, oh, non, mais si, 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 si. Vous savez, ceux que la maison d'Élie appelle les pigrièches, qui mettent leur victime sur une épine et qui le dépouillent. C'est dur d'accepter peut-être ce qu'ils disent. Moi, j'appelle ces gens-là chercher l'erreur. C'est plus mignon que pigrièche, quand même. Mais Dieu veut peut-être nous faire réfléchir. Et il faut demander l'aide de Dieu pour faire le tri entre ce qui est méchanceté et malveillance, jalousie, et ce qui est vérité. Je me souviens de... Bon, il n'était pas malveillant, mais quand je faisais l'émission en Angleterre, j'avais un père qui plaisantait beaucoup, correctement, mais qui avait vraiment un don d'humour extraordinaire. Et bon, évidemment, j'ai suivi ses traces. Et puis, sans me rendre compte, j'étais devenue assez sarcastique, mais je ne me rendais pas compte du tout. Et un jour, dans une mission d'évangélisation, un des gars me dit « Mais pourquoi tu es si sarcastique ?» Et là, je suis restée clouée. Moi, sarcastique, jamais de la vie. Je me suis dit « Il faut peut-être quand même que je réfléchisse. » Et j'ai réfléchi. Et j'ai constaté que probablement, j'étais trop sarcastique et que ça allait me jouer des tours aussi. Et du coup, j'ai prié là-dessus, j'ai demandé pardon à Dieu, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Alors j'espère que je ne suis pas restée un petit peu, vous me le direz. Mais c'est vrai que j'y fais plus attention. L'humour parfois peut déraper. Il faut faire attention. L'humour peut être dangereux aussi. J'ai entendu un jour une conversation. Enfin, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui a vu un gros différend avec une autre personne. Et malgré le fait que c'était une personne chrétienne de longue date, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit. Elle a dit, la personne lui avait reproché tout un tas de choses, et elle a dit, mais peut-être il y avait quelque chose de vrai, et j'ai réfléchi là-dessus. Bien, j'ai été très impressionnée par la foi de cette personne, par sa réaction, parce que c'est ça qui fait progresser. Même si la personne en face agit par jalousie ou par méchanceté, par pure malveillance. Parfois, il peut y avoir des choses vraies, et ça vaut le coup de les recevoir. David a reçu le message des Philistins. Simplement, il faut prier pour faire le tri. Autre problème, quand on s'associe de près avec des gens qui sont hostiles à l'Évangile, parce que c'était le cas des Philistins, ils étaient hostiles, ils voulaient la mort d'Israël, et ils voulaient récupérer le territoire. Il faut bien savoir, quand on parle d'ennemi, ce que c'est qu'un ennemi. Ce n'est pas la personne qui m'a tiré la langue ou qui... voilà. C'est vraiment des gens qui veulent la destruction. Les Philistins, ils voulaient le territoire, ils voulaient détruire les gens. Donc, quand on s'associe de près avec de ce genre de gens, c'était le cas de David avec Achish, des ennemis carrément ouverts de la foi. Ça peut être des gens sympathiques, ça peut être des gens qui nous apprécient et qui ont peut-être même, dans certains cas, d'assez bonnes valeurs. Mais il ne faut pas oublier qu'en cas de conflit, on parle de guerre ici, ils doivent rendre de compte à d'autres autorités. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on doit rendre des comptes à notre autorité, qui est Jésus. Et on aura des comptes à rendre, il ne faut jamais l'oublier. Et eux aussi, ils ont des comptes à rendre. Et la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun? 2 Corinthiens 6, 14. Qu'y a-t-il de commun? Qu'y avait-il de commun entre David et Achish? Et les Philistins en étaient plus conscients que David. Et on reprendra cette idée d'ailleurs tout à l'heure. Il y a un moment où renvoie-le là où tu l'as établi. Il y a un moment où il faut obéir. Il n'est pas philistin, il devait retourner à sa vie. On ne combat pas le même combat que ces gens-là. Et surtout, on ne combat pas de la même façon. Ça, c'est important de s'en rappeler. Il faut se rappeler à qui est-ce qu'on rend des comptes. Ce n'est pas les mêmes autorités. Donc, je trouve que les princes des Philistins, ils sont pleins de bon sens. Ils ont, en quelque sorte, dit à qui, écoute, si tu vraiment tu veux le garder, ce gars-là, ok, mais pas sur un champ de bataille. Parce qu'on n'a pas les mêmes ennemis, on n'a pas les mêmes comptes à rendre aux mêmes personnes. Pas question de se battre ensemble. Pour se battre, il faut être sûr de l'autre. Et malheureusement, la vie... est souvent un combat. Il faut être sûr des gens qui nous entourent. Non pas à 100%, personne n'est parfait, mais il faut être sûr qu'ils rendent bien des comptes à la même personne. C'est peut-être différent en temps de paix, mais quand il y a une guerre ouverte, il faut être prudent. Et malheureusement, la vie est une guerre ouverte. Même notre corps est en guerre permanente. Les globules blancs, ils n'arrêtent pas de bosser. C'est la guerre. Une armée divisée ne subsistera pas. Des soldats susceptibles de changer de camp face au danger, ça sera un problème. Et on va le voir la prochaine fois encore dans l'histoire de David. Quand tout va mal, il y a une partie de ses hommes qui étaient prêts à le tuer. Ah. Ils n'étaient pas dans la même dynamique. Ils ne rendaient pas les mêmes comptes que David à la même personne. Jésus parlera des mercenaires. De ces gens qui s'engagent pour garder les moutons de l'un ou de l'autre. Et puis, quand le loup arrive, j'ai vu qu'on en avait 500 en France en ce moment. Quand le loup arrive, eh ben ils se sauvent. Ils ne vont pas risquer de se faire mordre, quand même. Ah, il mangera quelques moutons, et alors? Le mercenaire, il n'est pas intéressé, il ne se sent pas concerné par le sort des moutons. Il vient faire son boulot pour avoir un salaire. Et si ça devient trop dangereux, on fait demi-tour. Donc Jésus était très conscient de ça. On n'est pas des mercenaires. On n'est pas des mercenaires. C'est-à-dire, on ne s'engage pas pour que le Seigneur nous donne une sorte de salaire et que quand ça devient trop difficile, on tourne casaque. Il faut y penser. Dieu nous demande, et ça je l'ai déjà dit aux jeunes, aux ados, une adhésion totale. Et c'est ça qui est un petit peu délicat. Nous, on aimerait bien une religion... Voilà, un jour par semaine, c'est bien circonscrit, de 10h à midi et demi. Voilà, et le reste de la semaine, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et personne n'a rien à me dire, je n'ai de compte à rendre à personne. Personne, certes, mais à Dieu, oui. Et ce que Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est aussi traduit par de toute ton intelligence. Et puis un autre verset, parle des cœurs partagés. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur est partagé, nos priorités vont être partagées et nos décisions sont forcément risquées. Les princes des Philistins, eux, ils en étaient parfaitement conscients. Bien, ils étaient intelligents, moi, je trouve. Ils prenaient cette guerre au sérieux et on peut dire que Dieu les a utilisés pour parler au cœur de David, pour lui ouvrir les yeux sur son identité, sur son appel. Et le fond du problème, c'est à qui David doit-il sa loyauté? Alors, dans la vie, envers qui est-ce qu'on est loyal? Ça, c'est embêtant. Ça va être grâce à cette intervention des princes que David sort du pétrin dans lequel il s'était mis. Vous imaginez, si d'un seul coup, on l'avait mis aux premières lignes et il fallait qu'il se batte contre ses frères, c'était fou, ça. Ou qu'il se retourne. Il se serait fait tuer très facilement, ils étaient beaucoup plus nombreux. Dieu va se servir des princes pour lui éviter ça. Et Dieu est bon. Vous imaginez le pétrin dans lequel il s'est mis. Et Dieu va permettre que ce soit les princes des Philistins qui aient du discernement pour lui. Ça, c'est l'humour de Dieu. J'aime beaucoup ça. Dieu a énormément d'humour. C'est les princes des Philistins qui vont jouer le rôle du gars intelligent qui a tout compris. Et lui, il s'était fourré dans un pétrin inextricable. Les princes parlent de regagner la faveur en se retournant contre les Philistins. Ça aurait été une possibilité. Est-ce qu'il l'aurait fait? On ne sait pas. Mais cette phrase va faire son chemin. Après avoir regagné ses biens et sa famille, on va voir que David va chercher à regagner la faveur. C'est marrant, ça lui a parlé. Il va envoyer des cadeaux à ses frères en Israël. Curieux, hein? Lui qui était tellement déçu de ses frères, qu'il n'avait pas défendu, etc. Pour partir chez les Philistins, il fallait vraiment qu'il en ait ras le bol, mais grave. Il fallait vraiment qu'il soit déçu. Et là, maintenant, il renoue. Il a compris, je ne suis pas un Philistin. Alors, l'interaction entre David et Achish, ça pose problème. Moi, c'est dans ce texte, c'est ça qui m'a vraiment le plus embêté. Parce qu'Achish, il peut nous paraître naïf, aveugle, crédule. Il est clair qu'il aime David parce que c'est un soldat. C'est un bon soldat qui revient régulièrement avec du butin. Donc, il y avait de l'intérêt. Il ne vit pas à ses crochets. David ne vit pas à ses crochets. Et le texte insiste sur le fait qu'il ne trouve rien de mal chez David. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il a été touché par la foi de David? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il dise que tu me plais autant qu'un ange, un messager de Dieu? Il sentait quelque chose dans la vie de David peut-être. Donc on a du mal à le cerner, Achish, entre naïveté, crédulité, intérêt. La Bible parfois ne donne pas toutes les réponses parce qu'elle tient compte de la réalité dans son ensemble. Hein, on pourrait dire Achish méchant, David bon. Dans ce cas précis, David n'était pas très bon et Achish n'était pas très méchant. Donc vous voyez, dans la Bible, parfois, il faut être prêt à accepter l'idée que ben, les choses, ça reflète la vraie vie. Les gens ne sont pas toujours tout noir, tout blanc, tout bien, tout pas bien. Dieu se sert d'Achish pour empêcher David de faire l'irréparable. Et ça, c'est super. Attaquer ses concitoyens, trahir les lois de l'hospitalité. Il va s'en servir aussi pour renvoyer David à Tsiklag, ça on l'a dit tout à l'heure, avant qu'il soit trop tard, il insiste. Et au départ, pour protéger Saül, David de Saül et de ses amis. Mais malgré son affection pour David, il doit obéissance au prince des Philistins. On ne peut pas servir de maître. Il a beau aimer David et peut-être même aimer le Dieu de David, on ne sait pas, puisqu'il parle du Seigneur. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas servir de maître. J'aime beaucoup ce chant, on le chantait beaucoup quand on était avec les étudiants au GBU. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre, un jour, il faut décider. Et pour les jeunes, c'est important, mais aussi pour les gens plus âgés. Parfois, on se laisse glisser, on va un peu fricoter avec les Philistins. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas. En fin de compte, David sert le Dieu d'Israël et son peuple, et Achish va servir les princes des Philistins. Il n'y a pas d'autre solution. L'amitié, les services rendus, la reconnaissance, tout ça, ça ne change rien. Le fond du problème dans notre vie aussi, c'est qui tu sers. Au fond, qui est-ce que tu sers? Et ça, c'est important de se poser la question. Qui tu sers, ça se révèle à un moment ou à l'autre, et surtout dans les moments de combat, dans les moments difficiles, quand il y a un conflit d'intérêts, un choix de priorité. Là, on va savoir qui on sert. Si on veut savoir, si vous cherchez à savoir qui vous servez, regardez vos réactions quand il y a un conflit d'intérêts. Alors on va servir Dieu, son œuvre, les intérêts de Dieu, la volonté de Dieu, les choix de Dieu, les valeurs de Dieu, ou bien... Oui. J'espérais que vous tomberiez dans le piège, mais c'est raté. Dieu ou le diable. Je pensais que vous alliez dire ça, mais vous êtes plus malin que ça. Hein. Ben oui, parce que le premier principe du satanisme, c'est tu serviras le diable ? Sers-toi toi-même. Sers-toi toi-même. C'est sûr que ça marche, ça. Hein. C'est vendeur hein, comme principe, là. C'est un bon marketing, hein. Sers-toi toi-même. Curieux, hein? Ces sectes satanistes, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Leur premier commandement, sers-toi toi-même. Donc on se sert, donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on va servir Dieu, son œuvre, ses intérêts, sa volonté, etc. Ou soi-même. Sers-toi toi-même. Nos propres intérêts, notre propre volonté, nos désirs, nos préférences et nos priorités. Or là, on a un gros problème. Je terminerai là-dessus. C'est que l'évangile dit tout à fait autre chose. Catastrophe. Il dit pas sers-toi toi-même. Aïe, 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 on est mal. Il dit renonce à toi-même. Ça, c'est un message dangereux et pas du tout populaire. Il ne ferait pas recette hein, maintenant. Et malheureusement, il a souvent été mal interprété. Et j'en veux pour preuve ceux qui étaient là dimanche dernier ont entendu cette petite jeune femme qui disait que son père était pasteur et que bon, ça l'a dégoûté à jamais de servir Dieu. Enfin, jamais non, puisqu'elle est revenue au Seigneur. Mais... Et j'avais envie de dire quelque chose, mais ce n'était pas le moment, le temps passait. C'est un bon argument pour dire « Ouais, c'est bien joli de renoncer à soi-même, et voilà, ce monsieur, il a renoncé à lui-même, il a servi Dieu, et voilà, ses enfants, ils ont tout abandonné. » Ah, c'est un bon argument, mais ça n'empêche pas que le renoncement à soi-même, il existe. Et on va donner quelques exemples. Papa, maman, dans la vie courante, on ne renonce pas à soi-même ? Quand vous avez un affreux gamin qui pleure la nuit pendant des mois, vous ne renoncez pas à votre sommeil pour aller consoler, faire un biberon, changer, etc. C'est terrible, ça c'est une partie de ma vie que vraiment... Et pourtant j'aime les bébés, mais... La nuit, non, j'aime plus les bébés. Hein, vous ne renoncez pas à vous-même ? Bah si, bien sûr. Et je voulais vous donner un exemple concret. Marie-France. Elle s'aime bien, Marie-France, heureusement. Mais, j'espère bien quand même. Mais voilà, elle a une sœur qui a des handicaps. Et combien de fois on l'a entendue à la réunion d'âme dire « il faut que j'y aille ». Elle a besoin de moi. J'ai promis à maman. Et elle a renoncé à elle-même. Elle avait des projets, elle avait envie de faire ceci, cela, peut-être une... Elle est peintre, Marie-France aussi. Peut-être des belles choses, elle voulait peut-être... Mais elle a dû renoncer parfois pour prendre sa journée, pour aller de l'autre côté de Paris et passer du temps. On renonce à soi-même, même quand on n'est pas chrétien. Les enfants, ils ne renoncent pas à eux-mêmes parfois pour leurs parents. Mais oui, je sais que vous êtes parfaitement capables, les ados, de renoncer à des projets pour faire plaisir à papa-maman. J'en vois qui hoche bien la tête, là. Ben oui, parfois vous allez vous priver de quelque chose pour faire un cadeau à papa ou maman ou passer du temps. Ou... Mais oui, ils ont besoin de vous aussi. Hein. Quand même. Le renoncement à soi-même, en fait, il existe. Et c'est curieux qu'on est prêt à le faire dans la famille, mais on a beaucoup plus de mal avec le Seigneur. Et pourtant, lui, il a renoncé à tout, toute sa gloire pour venir vers nous, pour nous tirer de notre culpabilité, de notre péché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'amertume des enfants de ceux qui ont trop renoncé ? Ça existe. Et j'aurais pu finir là-dessus. Il y a un mouvement de balancier où les générations passées ont peut-être tellement renoncé à eux-mêmes qu'ils ont renoncé à leurs femmes, à leurs enfants, à tout. Hein. Et du coup, les enfants, effectivement, ont trouvé que ce n'était pas juste. Et vous savez que les enfants ont un très grand sens de la justice. Jusque vers 16, 17 ans. Après, ça se gâte, hein. Méfiez-vous là. Mais ils ont un très grand sens de la justice et ils sentent bien que ce n'est pas juste. Et ils se révoltent. Malheureusement, ils se révoltent contre Dieu. Et puis maintenant, il y a un mouvement de balancier inverse. Et j'en veux pour preuve là, un truc que ma sœur m'a raconté il y a quelques années, où un pasteur charmant, au demeurant, que je connais, avait une dame qui faisait le ménage dans son église et il avait son bureau apparemment dans l'église. Et puis elle avait un gros problème de santé. Et avant de partir, le pasteur était encore là, était en train de mettre son manteau et lui dit « Est-ce que vous voulez prier pour moi ?» Parce que voilà, je ne sais plus si elle avait un examen médical important, quelque chose de grave. Et qu'est-ce qu'il lui répond ? Non, je rentre. Alors là, le renoncement à soi-même, il n'avait pas de train à prendre ni d'avion, hein, parce que ça pourrait encore expliquer la chose. J'ai vérifié. Là, ça ne va plus. Le renoncement à soi-même, ça fait partie du ministère. Pourquoi maintenant on a des problèmes avec certains médecins ? Parce qu'ils ont, ils veulent plus du renoncement à soi-même. C'est plus l'époque. 6 heures, je ferme. Bah oui, mais je suis allée voir aux urgences. Vous allez attendre 4 heures, c'est pas grave. Mais oui, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et attention de revenir. Il y a une part de renoncement à soi-même dans toutes les étapes de la vie, dans tout, et aussi dans le ministère. Et on a tous un ministère. Ministère de parents, le ministère de, que Dieu nous donne en tant que prof. Je sais qu'Hélène, elle n'est pas là, je peux en parler. Hélène n'hésite pas à faire des heures supplémentaires en tant qu'instit pour s'occuper d'un enfant à problème ou autre. Mais elle renonce à elle-même, elle aimerait peut-être bien rentrer et se reposer aussi. Surtout en ce moment, elle a quand même pas mal de petits soucis de santé. Mais elle va donner ce temps parce que c'est important. Donc le renoncement à soi-même, ça fait partie de la vie. Il faut simplement, pour revenir au problème des enfants de pasteurs qui sont en général très abîmés, je pense que si je peux me permettre de donner un conseil ou une consolation, je ne sais pas, l'important pour moi, c'est d'associer les enfants. Si les parents ont un ministère, c'est bien de les associer. Je pense que c'est vrai pour tous les métiers. Un médecin pourrait faire ça aussi, tout en gardant le secret, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut partager avec les enfants. Hein, je crois que j'ai déjà dit à certains, vous avez des soucis de travail, n'affolez pas les enfants, mais partagez avec les enfants. Ce sont des personnes, ce sont des gens qui ont la foi, qui croient en Dieu et qui prient. Et prier avec les enfants, ça va changer complètement la donne. C'est pas papa ne pense qu'à son boulot, parce que papa cache qu'il a des soucis de travail. Si papa, en rentrant, est capable de dire, tu sais, il faut prier pour mon boulot, parce que ça va pas, parce que j'ai tel et tel souci, on prie ensemble. Ben, les enfants se sentent, ils rentrent pas dans l'amertume, ils soutiennent. Nous, on a vécu ça avec les enfants. Ou des moments où ils ont même eu des paroles pour nous reprendre, pour nous corriger. Mais vous faites trop de soucis, arrêtez un peu, je me souviens. Bon, je crois que associer les enfants, c'est un des secrets. Alors, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est très important que les enfants soient associés à ce qu'on vit. Soucis de santé, pourquoi tout cacher aux enfants ? Ils vont être traumatisés, peut-être. Mais ils vont mettre leur foi en action avec le Seigneur. Ce sont des personnes. Et là, les grands ici, ils sont capables de partager beaucoup de choses avec leurs parents. Alors, je vais peut-être me faire gronder par vos parents à la sortie, mais c'est pas grave. Ils peuvent partager des choses. Peut-être des choses, non, c'est vous qui choisissez. Mais je pense que associer, si vous avez un ministère, je ne sais pas, maintenant il est trop petit celui de David, mais je pense que quand il sera plus grand, si « Ah papa, t'es encore parti pour faire une répétition, t'es encore parti pour faire ça », associer, expliquer. Oui, on va avoir une réunion importante et puis on veut honorer le Seigneur et tu vas prier pour moi avant de partir, tiens. Et là, ça change la donne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les ados. Ça change les choses quand vous êtes associés, complètement. Et c'est un encouragement. Je pense qu'on tombera beaucoup moins dans l'amertume. Alors évidemment, tous les enfants ont des choses à reprocher à leurs parents. C'est normal parce qu'on est humain. Je crois que les miens, ils ont leur lot de reproches à faire, n'est-ce pas ? Ils me regardent. Oh là-bas. Mais ils n'écoutent pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que de là à tomber dans une amertume telle qui conduit à la rébellion, je pense que ça peut s'éviter. Beaucoup de blessures pourraient être évitées si on associait nos enfants et nos petits-enfants à la prière dans des cas problématiques. On n'est pas obligé de donner tous les détails, mais associons-les. Ce sont des personnes à part entière, ce ne sont pas des bébés. Et croyez-moi, avec ce qu'ils voient à la télé, ils peuvent s'associer à nos problèmes. Ils voient des choses bien pires qu'ils ne devraient pas voir d'ailleurs. Donc, c'est un encouragement. Si on veut plus retrouver, si vous voulez rentrer dans votre ministère, dans l'église, quel qu'il soit, je pense que associer les enfants dans la prière, expliquer, ça change beaucoup la donne. Et on retrouvera beaucoup moins de gens abîmés, meurtris. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, l'homme et homme, mais il y en aura certainement beaucoup moins. Et que le Seigneur nous bénisse dans nos relations, qu'il nous rappelle qui on est, à qui on doit notre loyauté, à qui on doit rendre des comptes. On n'est pas des Philistins non plus. On appartient au Seigneur et c'est à lui qu'on rend des comptes. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez méditer. On terminera un petit peu ça la prochaine fois et on entamera le passage suivant. Seigneur, nous te remettons ces quelques paroles pour que chacun puisse retrouver la joie de ton salut, puisse retrouver une communion avec toi dans la lecture de ta parole, dans la prière. Seigneur, réveille la reconnaissance dans nos cœurs. Nous vivons une situation extrêmement privilégiée en Occident. Et nous sommes dépourvus de reconnaissance, dépourvus de joie. Seigneur, redonne-nous la joie de ton salut et que chacun puisse te servir en sachant renoncer à un certain nombre de choses, mais avec sagesse, pour glorifier ton nom. Que Seigneur, tu nous aides à mettre nos priorités en place. Tu nous aides, Seigneur, à faire la part des choses pour ne pas tomber dans les excès du passé ni du présent. Que vraiment nous soyons jugés fidèles et loyaux envers toi, Seigneur. Amen.
Juste avant de prendre la scène, j'avais juste un mot à rajouter à propos de la loyauté et qui rejoint l'intervention de Michel au début où elle disait qu'elle voit beaucoup d'indifférence, manque de joie, etc. Vous rappelez ? Ben, je peux vous dire, et je ne suis pas un prophète de malheur, que ceux qui ont des enfants aujourd'hui, vous pouvez vous faire du souci dans quelques années. Qu'ils auront besoin de l'aide du Seigneur pour être loyal à Dieu. Parce que, comme le disait Francis Schaeffer, il est mort il y a quelques années, il a dit un jour, il faudrait qu'on ait la désobéissance civile. C'est-à-dire, il faudrait qu'on refuse de suivre les lois civiles et en Occident. Et je ne parle pas d'ailleurs. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, avec la théorie du genre, j'ai d'ailleurs appris au passage que le fameux prince, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est marié, Harry, avec Marple, là, à Meghan, ils vont avoir un enfant, là, et ils ont dit dans les médias qu'ils ne vont jamais lui dire ce que c'est comme genre, parce qu'il faudra qu'il décide de son genre. Voilà. Donc vous voyez, quand ça vient de quelqu'un qui peut conduire l'Église d'Angleterre, voilà où nous en sommes. Et les lois passent en ce moment. Et les lois passent. Et vous serez obligés d'aider vos enfants à désobéir civilement. Comme les apôtres ont dû le faire. Quand ils ont été confrontés, ils ont dit, est-ce qu'on obéit à Dieu ou aux hommes ? Ah ben, vous en serez là. Vous en serez là. Peut-être moi je ne serai plus là, mais vous en serez là. Et donc préparez-les à des temps difficiles. Et s'ils n'ont pas la joie maintenant de leur salut, ils devront l'avoir, sinon ils ne passeront pas. Parce que nous serons obligés de prendre position. Aujourd'hui déjà aux États-Unis, il y a des menaces de mort pour ceux qui font ça. Ils sont toujours en avance sur nous, ça arrivera chez nous. Et là, est-ce qu'on obéit à Dieu, à la parole de Dieu ? Ou est-ce que nous laissons nos enfants choisir leur genre, savoir ce qu'ils veulent être, voyez ? Et ça, c'est des lois qui sont en train de passer et qui vont provoquer ce ressaut, ce sursaut de la foi, comme au temps des nazis. Au départ, tous les chrétiens bien soutenaient Hitler, et quand ils ont vu ce qui s'est passé, les choses ont changé. Et bien, c'est dans cette civilisation que nous sommes. Alors, ressaisissons-nous avant et ayons une foi dynamique pour que nous puissions prendre position contre ce qui est en train de se passer, pour que nous puissions avoir la victoire et rentrer dans la réjouissance du Seigneur.